Ça va bien?
Oui!
Bon, j'espère, parce que je vais vous endormir ce matin. Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, les versets 17 à 32 ce matin, qu'on va couvrir ensemble. Un passage extrêmement important pour comprendre notre époque, comprendre les temps où nous vivons et pouvoir accompagner les gens, les conduire vers l'Évangile, vers cette bonne nouvelle, l'Évangile de Dieu. Alors, je vous demande d'être très attentif à la lecture des Écritures. Si vous n'êtes pas familier avec le passage, soyez très attentifs, on va plonger ensemble dans ce passage-là, d'accord? On va aller dans un mot de prière avant d'écouter ensemble la parole de Dieu. Père éternel, tu nous as créés. Tu es le Créateur, tu es celui qui nous a conçus. Seigneur, notre vie, la vie des hommes, des êtres humains, trouve son sens en toi. Nous comprenons pourquoi nous existons, à quoi nous servons, Seigneur, où se trouve notre bonheur et le sens de notre vie, lorsqu'on regarde premièrement à toi. Mais voilà, Seigneur, particulièrement l'Occident a connu ce christianisme, cette révélation qui nous est venue à travers le Fils de Dieu et à travers les derniers siècles, a perdu ses repères, Seigneur. Et comme un grand nombre de nos concitoyens l'expérimentent, notre société vit un vide profond, une quête de sens, Seigneur. Je te prie, Père, de nous éclairer ce matin afin que nous comprenions, que nous saisissions bien les temps où nous vivons, afin que nous puissions comprendre et aimer nos amis, nos voisins, nos collègues, que nous-mêmes, Seigneur, nous ne perdions pas de vue nos points de repère en toi, Seigneur Jésus. Je te prie de venir parler à chacun de nos cœurs ce matin, chacun d'entre nous, peu importe où on est rendu, peu importe nos questionnements, viens nous rencontrer par la puissance de ton Esprit Saint, par la puissance de ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on va écouter notre frère Stéphane Rondeau nous lire la parole de Dieu.
Alors, si ce n'est pas déjà fait, Romains chapitre 1, versets 16 à 32, et je vais vous lire ça dans la Louis II. Romains 1, 16, 32. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.
Merci Stéphane. Lorsqu'on commence un message, puis on prépare un message, quand tu prends tes cours d'homilétique, une des affaires qu'on t'enseigne, c'est l'introduction est super importante. Parce que si tu ne les accroches pas dans les deux premières minutes, même dans les 30 premières secondes, oublie ça, ils vont dormir. Fait que là, je travaillais mon intro, puis je dis comment je vais les accrocher ce matin. La seule idée intelligente que j'ai eue est peut-être vraiment pas brillante. J'ai dit, je vais les insulter pour commencer. Fait que ce matin, là, je vais vous demander de réfléchir. C'est bon? Je vais vous demander de réfléchir un petit peu, de faire un petit bout de chemin avec moi. Êtes-vous bon pour faire ça ce matin? Ça va dans un texte difficile. Peut-être que vous allez dire, c'est la dernière fois que je viens à cette église-là. Le gars en avant, il nous dit, gang de cabochons. En même temps, ceux qui sont habitués, je vous le dis souvent. Hein? Je me le dis moi-même aussi souvent. Ce matin, on va dans un texte qui est super important pour comprendre notre époque. Là, quand je dis ça, ça a l'air comme théorique, OK, on veut comprendre les grandes tendances de la société. Non. Le passage de ce matin est super important pour que tu arrives à comprendre tes amis, que tu puisses comprendre les gens dans ta famille, que tu puisses comprendre tes collègues de travail, que tu puisses comprendre ce qui se passe dans les médias, que tu puisses comprendre c'est quoi les solutions que la société cherche à se donner pour se construire, pour aller à quelque part ensemble. Francis Schaeffer, un grand philosophe chrétien, c'est sur lui que le cours que je donne le dimanche matin, et c'est sur sa pensée qu'on construit ce cours-là, a dit ceci, « Les gens ont soif de beauté, de grandeur, de signification. » Moi, personnellement, je trouve qu'on vit à une époque extraordinaire. J'aime les technologies. J'ai pas de papier ici en avant. Je suis avec des bebelles. Des fois, ils marchent pas. Des fois, ils marchent. Mais j'aime les technologies. J'aime l'évolution de la science. J'aime les possibilités de m'informer sur tout ce qui se passe dans le monde. J'aime beaucoup ce qui se passe souvent dans le domaine des arts. Je trouve qu'on vit à une époque super excitante. Pour de vrai. Mais en même temps, quand tu es connecté un peu, quand tu jases avec les gens, quand tu observes ce qui se passe un peu partout sur la terre, tu sens aussi qu'il y a une profonde confusion. Particulièrement en Occident, mais il y a une profonde confusion partout sur la terre et il y a une espèce de vide profond qui est là. Francis Schaeffer dit « Les gens ont soif de beauté, de grandeur, de signification, et en même temps, on sent que l'être humain a besoin d'être consolé. A besoin d'être consolé dans le sens qu'il a besoin de savoir pourquoi il est là. À quoi ça sert d'être là? Où je m'en vais avec ça? Et ça s'observe à tous les âges, d'accord? Voilà, peut-être un siècle ou deux, des grandes crises existentielles chez des enfants de 8-9 ans, c'était quelque chose qui était moins fréquent. C'est beaucoup plus présent maintenant. Des phénomènes de dépression chez les enfants, c'est quelque chose qu'on observe plus aussi. D'accord? Et donc, ça s'observe à tous âges, cette espèce de sentiment de vide-là où tu dis, j'ai tout, mais en même temps, j'ai le sentiment profond que j'ai rien. Et ce que Paul fait ici, dans ce passage-là, est super éclairant. Pour nous, comme chrétiens, pour les gens en général, pour comprendre cette espèce de profonde confusion qu'il y a dans le cœur humain. Et donc, je vous demande ce matin d'être très attentif pour saisir ce que Paul est en train de nous dire ici, parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir amener l'espoir, la lumière de l'Évangile à vos amis, à vos proches. Ce matin, on va voir ensemble qu'en rejetant Dieu, l'humanité a sombré dans la confusion, mais plus que ça encore, Dieu a livré lui-même, volontairement, l'être humain à cette confusion-là profonde. Et ce que ça fait, c'est que l'homme ne sait plus qui est Dieu, mais non seulement il ne sait plus qui est Dieu, mais il ne sait plus qui il est. C'est vraiment important. Non seulement l'être humain ne sait plus qui est Dieu, mais l'être humain ne sait plus qui il est. Et seul l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, seul l'Évangile de Dieu peut ramener l'être humain à la raison. Juste pour placer le passage de ce matin dans le contexte de la lettre aux Romains, puisqu'on traverse cette lettre-là, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont relevé le défi de commencer à mémoriser un chapitre de la lettre aux Romains. J'espère que plusieurs d'entre vous avaient commencé à passer à travers l'Épître aux Romains une fois par semaine, les 16 chapitres ensemble. Mais pour placer ce passage-là dans l'argument, dans ce que Paul est en train de raconter à travers toute cette lettre-là, on entre dans une section de la lettre aux Romains où Paul veut vraiment exposer l'Évangile, nous montrer c'est quoi l'Évangile. Et avant d'arriver avec la solution, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire la démonstration que tout le monde sur la terre, païens, c'est-à-dire les non-juifs, de quelque culture que ce soit, mais les juifs aussi, croyants, non-croyants, tout le monde sur la terre est au même endroit devant Dieu parce que tout le monde se retrouve coupable sans Dieu. Et tout le monde a besoin que Dieu vienne intervenir pour nous sortir de ce marasme-là, de ces ténèbres-là profonds en nous qui nous éloignent de Dieu pour être conduits à Dieu. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Alors la semaine prochaine, on va parler ensemble de la personne qui est religieuse, de la personne qui cherche un droit moral, qui a des principes, qui croit en Dieu puis qui dit « Dieu sait ce qui est bien puis il faut faire ça », puis particulièrement du juif par exemple. Mais cette semaine, Paul nous parle de ceux qui ne croient pas dans ce Dieu de la Bible et qui se sont créés toutes sortes de dieux, voire eux-mêmes, ceux qui n'ont pas trouvé aucun Dieu dans la nature, mais qui se sont dit « Voici, je serai mon Dieu ». C'est moi qui vais conduire toute ma vie. Je serai le maître et c'est moi qui vais donner un sens à ma vie. Paul dit, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel, se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire un manque de recherche de Dieu, de crainte de Dieu. Quelqu'un qui est impie, c'est quelqu'un qui n'a pas ce sens religieux-là de chercher Dieu vraiment. Contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ce que Paul dit ici, simplement, c'est que les êtres humains connaissent Dieu. Tous les êtres humains connaissent Dieu. Parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. En eux-mêmes, ils trouvent un écho lorsqu'ils regardent les ouvrages de Dieu. C'est quoi les ouvrages de Dieu? C'est l'univers, c'est la terre, c'est l'humanité, c'est tout ce que Dieu a créé. L'être humain invente très, très peu de choses. Hein? Même en création, même dans le domaine des arts, ce qu'on fait fondamentalement, c'est qu'on réorganise des choses, on fait des nouvelles associations dans cet ouvrage-là extraordinaire que Dieu a créé. C'est ça, les arts, essentiellement. C'est qu'on fait des nouvelles associations, on dit « Ah, ça crée, waouh, il y a quelque chose de nouveau ici. » On n'invente pas grand-chose, on regarde la nature, puis on dit « Bon, OK, on va jouer avec ça un petit peu, puis paf, on va jouer avec les couleurs. » C'est Dieu qui a créé les couleurs. Et ce que Paul dit, c'est que tous les êtres humains, dans leur nature profonde, dans ce qu'ils sont, à cause de ce qu'ils voient dans la nature, à cause de ce qu'ils voient en eux-mêmes, à cause de ce qu'ils voient dans les relations humaines, dans la société, tous les êtres humains connaissent Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en contact avec ça, mais Paul dit « tous les êtres humains connaissent Dieu ». Et c'est important pour moi, comme chrétien, lorsque j'ase avec des amis, d'avoir conscience de ça. De bien des manières, mes amis reflètent la personne de Dieu. Je ne peux pas simplement, comme chrétien, approcher quelqu'un qui n'est pas chrétien et dire « Regarde, tu ne connais pas Jésus, donc tu ne connais rien. » Honnêtement, ce n'est pas vrai. C'est pas ça que Dieu nous dit dans sa parole. L'être humain a été créé à l'image de Dieu et reflète la personne de Dieu. Et donc, l'être humain, en lui-même, profondément, considérant l'univers, sait que Dieu existe, il y a une connaissance de Dieu. Cette connaissance-là est limitée. En théologie, on appelle ça la connaissance générale. Donc, en regardant l'univers, l'être humain a une connaissance générale de Dieu. Puis on va parler de la Bible, par exemple. Et tout ce qu'on a appris sur Jésus et à travers Jésus sur Dieu, on va appeler ça la révélation spéciale. Parce qu'elle est particulière, elle est plus définie. Dieu nous dit dans des mots des choses qu'on saisit un peu intuitivement à travers la création. Mais cette révélation-là générale, la création des ouvrages de Dieu, tous les êtres humains l'ont. Tous les êtres humains connaissent Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette espèce de quête profonde. Je lisais une statistique cette semaine sur Internet, cherchais un peu où est-ce qu'on est rendu, par exemple, avec l'athéisme dans le monde. L'athéisme ou le gnosticisme, ceux qui vont dire soit qui vont affirmer que Dieu n'existe pas, ou soit qui vont dire ben si Dieu existe, il s'est jamais fait connaître. C'est absolument impossible de le connaître pour l'être humain. Toutes les religions du monde, c'est de l'imaginaire, puis c'est des choses qu'on a imaginées. Je vous avais dit, on va réfléchir un petit peu ce matin. Vous êtes encore avec moi? Oui, c'est bon. Donc, je faisais une petite recherche là-dessus, puis les dernières stats que j'ai trouvées, ça ressemblait à 14 % pour l'athéisme, le gnosticisme. L'agnosticisme, je m'excuse. C'est pas beaucoup. Pour de vrai, c'est pas beaucoup. Quand moi, je jase avec les gens, j'aurais l'impression que c'est beaucoup plus que ça parce qu'on vit dans un endroit du monde où la concentration est un peu plus grande. Puis il y a certains pays d'Europe où vous iriez, ça va vers 34-40%, d'accord? Donc, ça serait plus grand encore. Mais dans la réalité, la très, 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 très vaste majorité des gens sur la Terre sont absolument convaincus et conscients que Dieu existe. L'être humain connaît Dieu par ses ouvrages. Et ce que Paul, dans le fond, est en train de nous dire, c'est que la bonne réaction devant ça, ça devrait être de chercher Dieu humblement, pas essayer de s'imaginer un Dieu, de se créer un Dieu sur mesure qui va me ressembler en tout point dans ma bêtise, dans ma folie. Je pense au Dieu des Grecs qui était tellement, tellement tordu souvent. Mais la bonne attitude, ce serait d'avoir une crainte de ce Dieu-là et de chercher à le connaître. Sans essayer de le définir, de le mettre dans une petite boîte. Et c'est ça que l'être humain devrait fondamentalement être en train de faire. La vérité, c'est que bien souvent, moi-même, les premières fois où on m'a exposé à l'Évangile, puis je pense à toute la fin de mon adolescence où je me posais beaucoup de questions sur ça, des fois, on va partager l'Évangile à des gens, on va leur apporter des éléments de la parole de Dieu, tout ça, ils vont trouver ça fascinant. Mais une fois qu'on a terminé d'exposer ça, leur réponse, ça va être, écoute, c'est intéressant, mais pas pour moi, pas maintenant. Et donc, dans cette réaction-là, il y a un refus de dire, wow, il y a un Dieu qui a créé l'univers, puis il faut à quelque part que j'adopte cette attitude pieuse-là de craindre ce Dieu-là, puis de dire, je dois le connaître. Si je veux me connaître, il va falloir que je le connaisse. Et donc, il y a ce refus-là. Et ce que Paul nous dit, c'est que toutes les religions qu'on voit dans le monde, tout ça, tout ce qui a été inventé, toutes sortes de religions, de divinités qui ont été créées, c'est en fait ce rejet-là du Dieu qui se fait connaître à travers tout l'Ancien Testament et à travers le Nouveau Testament. Verset 20-21, Paul dit, « Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Au lieu de chercher à connaître ce Dieu-là qui est insaisissable par lui-même, Dieu est invisible. Dieu est esprit. Puis Dieu est invisible. Et la bonne attitude, ce serait simplement de dire, toi qui m'as créé, que je veux connaître, révèle-toi à moi. Je peux pas te saisir. Je peux pas te comprendre. Je vois à travers les ouvrages, à travers ta création que tu es là quelque part, mais je vais avoir besoin que tu te fasses connaître à moi davantage. Au lieu de faire ça, et vous retournez dans Genèse, vous retournez dans Genèse 1, vous regardez l'attitude d'Adam, l'attitude de Ève, c'est quoi qui se passe? Simplement, ce que l'être humain fait, c'est qu'il dit, merci Dieu, mais au lieu de t'écouter toi, je vais me réinventer moi-même, puis je vais me faire des dieux à ma mesure. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous allez pouvoir penser à des moments où le peuple d'Israël, qui avait connu ce Dieu-là très, très bien, se retrouve dans des moments de silence où Moïse s'en va sur la montagne. Puis là, Moïse n'est pas là pendant 40 jours. Puis à un moment donné, c'est comme on se retrouve devant ce silence-là, devant ce Dieu invisible-là, parce que son messager, son prophète n'est pas là pour nous parler. Puis à un certain moment donné, Israël se rebelle puis dit, ben, on va se le faire, notre Dieu. On va se le faire nous-mêmes, notre Dieu, qui va être à notre mesure, qu'on va pouvoir définir. C'est ça que Paul dit ici dans les versets 20-21. L'être humain a refusé de glorifier Dieu et Dieu l'a livré à ses pensées, à son cœur sans intelligence, et l'être humain a décidé qu'il allait lui-même se créer des dieux. Puis c'est profondément injuste de faire ça. On va voir ensemble que c'est pas très brillant, mais c'est avant tout profondément injuste de faire ça. C'est un petit peu la même chose que, puis certains d'entre vous l'avez peut-être vécu, j'espère jamais vivre ça de ma vie, c'est un petit peu la même chose qu'un enfant qui renie entièrement ses parents et qui dit « Vous n'êtes pas mes parents. Je ne vous ai jamais connu, je ne vous dois rien. » Vous n'êtes pas mes parents. Il n'y a pas de lien entre vous et moi. Je ne vais jamais chercher à me définir à travers ce que vous m'avez donné. Il y a quelque chose de profondément injuste dans ça. Parce que s'il y a un Dieu qui nous a créés, nous lui devons tout. Nous lui devons d'être ce que nous sommes. Nous lui devons plus que ça parce qu'il n'est pas simplement l'auteur de l'univers. Les Écritures nous disent qu'il soutient l'univers. C'est vraiment paradoxal. Hein? L'être humain mesure plus que jamais sa fragilité. On est là avec des questions environnementales super sérieuses, super importantes. On est capable actuellement, l'humanité est capable de mesurer mieux que jamais sa fragilité. Et il n'y a pas cette crainte de Dieu. Ce n'est pas là. Alors non seulement on rejette la paternité de Dieu, mais en plus, on rejette le fait que c'est lui qui soutient toute chose. C'est un véritable, sans la parole de Dieu, c'est un véritable mystère de réaliser cette espèce d'équilibre universel qui permet notre existence. Et donc, il y a ce rejet-là fondamental de Dieu. Parce qu'on va rejeter même nos origines. Et il y a quelque chose de profondément injuste dans cela. Mais non seulement c'est injuste, c'est pas brillant. C'est comme pas très, très sharp. Parce que l'être humain, c'est ce que Francis Schaeffer nous dit, il dit l'être humain qui rejette Dieu a perdu son point de repère. Tout à l'heure dans le cours, on est en train d'exposer un peu la pensée de Schaeffer, puis laissez-moi encore faire une once de philosophie un petit peu avec vous. J'expliquais tantôt, l'être humain est un être limité. Okay? En philo, on appelle ça un être fini. Comme j'ai dit tantôt, oui, on est peut-être fini sans Jésus, mais ce n'est pas de ça que je parle. On est un être limité. Dans un univers qui nous apparaît infini, on est devant quelque chose d'infini, puis on est un être très, très, très limité. Il y a un créateur à cet univers-là. Et si je ne reconnais pas qu'il y a ce créateur-là, c'est quoi mon point de repère? Il y a un film qui est sorti l'automne dernier que j'ai pas vu. J'ai juste vu les previews, mais il y a un moment où il y a une astronaute qui est dans l'espace puis qui part à la dérive. Je vais vous dire, pour de vrai, je ne l'ai pas vu parce que j'ai l'impression que je vais vivre une heure et demie d'angoisse. Fait que ça ne me tente pas de le voir. Mais c'est quoi le sentiment d'angoisse qui vient lorsqu'on voit l'annonce de ce film-là? C'est ça. J'ai plus d'attache. Je m'en vais jusqu'au bout de mon oxygène dans un grand vide, un isolement croissant où j'ai plus aucun point de repère. J'ai rien pour me tenir, pour me déposer. L'être humain est un être limité et fini. Et donc, l'être humain, lorsqu'il rejette l'existence de Dieu, d'un créateur, perd son point de repère fondamental. Et ce que Paul nous dit en réalité, c'est que c'est pas juste parce qu'il n'a pas compris. C'est qu'il y a quelque chose dans le cœur humain qui dit « Merci Dieu, je te rappelle peut-être un jour, je vais inventer un nouveau Dieu parce que je veux m'inventer moi-même. » Donc, ce que Paul dit, c'est que l'être humain sait dans son cœur, il sait que Dieu existe, il sait que Dieu est là, mais fondamentalement, l'être humain est rebelle. On n'est pas simplement victime de ça. Il y a une rébellion à ça. Et cette rébellion-là se mesure d'un million de manières, simplement par notre style de vie, par toutes sortes de fautes, de méchanceté, d'égoïsme, de péché dans nos vies. Mais cette rébellion-là se mesure très bien lorsqu'on est exposé à la parole de Dieu. Lorsque tu partages à quelqu'un l'Évangile, lorsque tu apportes cette lumière de la bonne nouvelle de Dieu à quelqu'un, puis que la personne dit « cool, non merci ». Je parle pas du moment où les gens comprennent pas puis ils sont pris dans leur intelligence avec toutes sortes de raisonnements, de faux raisonnements qui disent ça fait pas vraiment de sens ton affaire. Oh, on peut faire beaucoup de chemin là-dessus, il y a pas de problème, on peut discuter encore des heures, tu vois, ça fait énormément de sens cette affaire-là. Puis même avec quelqu'un qui est athée, on trouve encore des ponts pour dire non, mais regarde où tu vas les construire tes valeurs. Tu auras besoin du christianisme, mon ami, pour trouver les plus belles valeurs. J'ai encore des ponts. Mais ce n'est pas vraiment à ça que je fais référence. C'est une fois que j'ai traversé tout ça, quelle est mon attitude, quelle est ma réponse? Et ce que Paul me dit, c'est qu'il y a une rébellion dans le cœur de l'homme où l'homme dit « Merci Dieu, je passe un autre appel, je vais m'inventer mon Dieu parce que je veux m'inventer moi-même sans toi, sans toi. » Regardez bien ce qu'il dit. Ils sont donc inexcusables à la fin du verset 20. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce n'est pas comme super brillant de rejeter le point de repère fondamental au sens de ta vie et de dire « moi, je vais me réinventer par moi-même ». Parce que tu vas embarquer dans toutes sortes de faux raisonnements. Et lorsque Paul dit ici, ça englobe à la fois, lorsqu'il parle, il dit, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça englobe tout ce qu'on est de plus fondamental comme être humain. Je commence à déraisonner sur le sens de mon existence. Je commence à déraisonner sur le sens de la vie. Je commence à déraisonner sur ce qui est important. Je commence à déraisonner sur c'est quoi les relations entre les êtres humains. Comment on construit un couple? Comment on construit une famille? Qu'est-ce qu'on fait devant la vie, la mort? Qu'est-ce qu'on fait devant la maladie? Comment est-ce qu'on gère les biens matériels? À quoi ça sert d'être sur la terre? Comment est-ce qu'on doit regarder l'environnement? Et il va plus loin que ça. Il dit leur cœur, et plongé dans l'égarement. Comment est-ce qu'il le dit encore? Il dit, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le cœur dans le Nouveau Testament, ça représente, pas le cœur physique, ça représente l'endroit où je prends toutes mes décisions. Pas simplement des décisions rationnelles, mais ça parle de mes passions, ça parle de mes pulsions. Ça parle de ce qui va faire que je vais dire « Wow, Esther, c'est une belle fille, puis je veux la marier, puis je vais l'aimer toute ma vie. » Puis ça parle du moment où je vais décider de ne pas faire ceci, mais faire cela, parce que pas simplement parce que c'est raisonnable. Si j'étais égoïste, ce ne serait pas raisonnable de le faire, mais c'est la bonne chose à faire, puis je décide de le faire. Ça parle de là où viennent tous mes élans les plus profonds, que ce soit de tristesse, que ce soit de joie, que ce soit des passions. C'est ça, le cœur. Ce que Paul me dit ici, c'est qu'à partir du moment où l'être humain a rejeté ce point de repère-là, qui est la personne de Dieu, qui a décidé de se réinventer par lui-même, il est en train de s'inventer comme cet astronaute qui est à la dérive dans l'espace, sans aucun câble qui te rattache à quelque chose qui va te ramener sur la Terre, et tu es à la dérive jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton oxygène. Tout simplement, tu tourbillonnes à l'infini. À l'infini. Dans tes décisions, dans le sens de ta vie, dans l'orientation de ta vie, dans la manière que tu te construis, parce que tu as perdu ce point de repère-là fondamental. C'est injuste pour l'homme de rejeter Dieu, et c'est pas super brillant de le faire, parce que c'est au péril de l'être humain. Puis écoutez, ça fait pas vraiment de sens que l'être humain invente, que la créature invente le créateur. Ça fait pas vraiment de sens. Alors, qu'est-ce que l'être humain est obligé de faire? L'homme moderne, l'homme post-moderne, l'homme post-chrétien, qu'est-ce qu'il dit? Bien, il dit Dieu est le fruit de notre imagination. Donc, je peux m'inventer un Dieu comme je le veux. Ça veut dire que tu es ton point de repère dans l'univers, dans l'espace-temps. C'est toi ton point de repère. La créature ne peut pas inventer le créateur, c'est pas vrai. Francis Schaeffer dit, en bout de ligne, l'homme ne sait plus pourquoi il existe. Il ne sait plus pourquoi il a été créé. Puis quand vous jasez avec des amis, quand on parle avec des personnes qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle-là de l'Évangile de Dieu, j'ai besoin d'avoir conscience de ça. J'ai besoin de l'avoir à l'esprit. Parce que l'être humain est une créature absolument fantastique, extraordinaire, qui va se construire quand même toutes sortes de sens dans sa vie, qui va porter des masques et qui va bâtir un sens à sa vie. Puis si ces vérités-là qu'on voit ici ne sont pas claires pour toi, si tu ne les vois pas avec une grande limpidité, quand tu vas jaser avec tes amis, ce que tu vas voir, c'est le masque qui est là. L'être humain a besoin de se donner un sens. Il ne va pas rester là sans sens. S'il n'y en a pas, une fois qu'il n'y a plus de plaisir, c'est le suicide. Mais l'être humain est grand pour se trouver des sens. Puis lorsque je jase avec les gens, ce que je vois, c'est le masque de ces sens-là qu'ils se sont donnés. Et tant qu'ils vont réussir à trouver un minimum de plaisir, à faire évoluer leur histoire, le masque va tenir. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre cette réalité-là, qu'ils n'ont pas de point de repère, vous allez gober l'histoire. Puis vous allez vous taire. Vous allez arrêter de parler. Parce que vous allez un peu vous mettre dans leur peau, puis vous allez dire, ouais, dans le fond, tu sais, peut-être que moi, c'est le sens que je me suis donné. Puis là, tu quittes la conversation, tu réfléchis après, puis tu dis, non, c'est pas vrai. C'est clair. Mais quand j'arrive devant eux, tableau, j'y crois. J'y crois parce que moi-même, tu sais, est-ce que je suis si parfait que ça? Non. Est-ce que j'ai toutes les réponses? Non. Est-ce que le christianisme a fait que tout va bien? Non. Fait que, dans le fond, tu sais. Si vous gobez ça, vous n'êtes plus capable de leur apporter la bonne nouvelle. Vous n'êtes plus capable. Vous n'avez plus de mots. Vous ne savez pas quoi leur dire. Ils n'ont pas les points de repère. Parce que la créature ne peut pas s'inventer elle-même. Elle doit regarder à Dieu pour le connaître. Et ce que Paul nous dit ici dans Romains, ce que Paul nous dit ici au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété », c'est que Dieu parle très, très fort à notre époque. Une des choses qu'on entend souvent quand on jase avec les gens, c'est qu'ils nous disent « Dieu, il est où Dieu? Dieu n'est pas là. Dieu n'est nulle part. » Dans l'histoire des hommes, Dieu parle de deux manières. Dieu parle en intervenant, en châtiant, puis Dieu parle en se taisant. Tu veux partir à la dérive dans l'espace? Tu ne veux pas que je te retienne malgré toi? Dieu peut parler. Il va ouvrir la main. Il va te laisser partir. Il y a un écrivain anglais qui a dit « Le jugement du monde, c'est l'histoire du monde. » Dormez là, hein? Le jugement du monde, c'est l'histoire du monde. Fait que tout ce que Dieu a fait, bien des fois dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il a laissé l'homme faire à sa tête. Et il a livré l'homme à lui-même. Il a dit très bien, tu veux rejeter ce que je t'ai apporté, je vais te laisser te construire. On vit à une époque qu'on appelle souvent post-chrétienne. Et vous savez, dans le mouvement qu'il y a eu au Québec de rejeter la religion, il y a quand même pas mal de bon sens dans tout ça parce que l'Église peut facilement devenir juste une espèce d'institution qui est dirigée des fois par des gens qui connaissent pas eux-mêmes l'Évangile de Jésus-Christ puis qui sont engagés dans cette espèce de religion-là aussi, puis il y a toutes sortes d'abus. Mais la vérité, c'est que les Québécois n'ont pas rejeté la religion. Ils ont rejeté le christianisme. Mais la société occidentale est en grande partie construite, fondée sur les valeurs chrétiennes. En grande partie. Et plusieurs se demandent, ça va être quoi nos points de repère maintenant? Où est-ce qu'on va les trouver? Paul dit à trois reprises dans le passage, regardez bien ça, le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. La colère de Dieu s'exprime contre l'injustice des hommes actuellement par le silence de Dieu. Parce que Dieu laisse cette société-là se construire par elle-même. Il y a des choses qui sont belles, parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, puis on voit des choses nobles qui sont construites, qui sont vraiment belles. Puis je veux dire, il faudrait vraiment être ingrat pour ne pas rendre grâce à Dieu à tous les jours pour le pays, la province où on vit, avec énormément de liberté. C'est vraiment extraordinaire. Tous les jours, je bénis Dieu d'être ici. Et donc, il y a des choses nobles qui sont là, mais il y a une grande confusion aussi. Parce que Dieu a livré l'homme à lui-même tout simplement. Il l'a livré à ses propres philosophies, à ses propres religions, à ses passions sexuelles, à toutes les expressions de son égoïsme profond. Et donc, on a vu l'homme s'inventer toutes sortes de dieux et de philosophies centrées sur l'homme. Une des choses qui est importante à saisir, puis je le mentionnais tout à l'heure aussi dans le cours, c'est que ce que Paul dit ici au verset 24-25, je vais choquer quelques personnes ce matin. C'est super important, méditer là-dessus. Vous n'arriverez pas à annoncer l'Évangile aux gens autour de vous si vous ne saisissez pas ça. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, écoutez bien, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Un petit peu plus tôt, il dit, au verset 22-23, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, un Dieu parfait, infini, en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et là, Paul est en train de parler de toutes les religions que les hommes se sont inventées, qui ne nous parlent pas de ce Dieu monothéiste qui est révélé à travers l'Ancien Testament et de ce Dieu le Fils qui est révélé à travers Jésus-Christ. Paul est en train de dire ici que toutes les religions, c'est choquant là, ce que je veux dire, toutes les philosophies qui ont été inventées par les hommes, qui ne nous conduisent pas à Dieu par la personne de son Fils Jésus-Christ, ce sont tous le fruit de la rébellion des hommes. Alors, ce que j'expliquais ce matin dans le cours, c'est que lorsque je considère plein de religions dans le monde, et que je vois dans ces religions-là, dans ces philosophies-là, des éléments de vérité. C'est vrai qu'il y en a. Ce que je vois, c'est un écho de l'image de Dieu dans l'être humain. L'être humain ne fait pas seulement des choses mauvaises, c'est pas vrai. Et donc, je vois un écho de la noblesse de Dieu qu'il y a dans l'être humain lorsqu'il invente une religion, puis je vois ça à travers cette grande religion-là. C'est vrai, C'est vrai que je vais voir ça. Mais de là à dire que toutes les philosophies, toutes les grandes religions nous mènent à Dieu, là je suis rendu ailleurs, c'est pas ça du tout l'argument de Paul. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que toutes les religions du monde, toutes les croyances, toutes les spiritualités, toutes les philosophies qui ne me conduisent pas au Dieu créateur qui s'est révélé dans les saintes écritures à travers la personne de son fils Jésus-Christ, c'est une expression de la rébellion des hommes. Et il y a plein de mensonges qui se trouvent là, qui des fois vont avoir des échos de vérité, mais en même temps, il y a plein de choses qui mentent sur Dieu, qui pervertissent la compréhension de la personne de Dieu. Et ça, c'est super important de le comprendre. Parce que lorsque je vais jaser avec mon ami qui est musulman, lorsque je vais jaser avec mon ami qui est Krishna, lorsque je vais jaser avec un bouddhiste, avec quelqu'un qui s'est inventé sa religion, puis je vais entendre des belles valeurs qui sont là, des choses intéressantes qui sont là, bien sûr, je peux partir de là puis faire un pont pour aller vers le Dieu créateur, vers Jésus-Christ. Mais je ne ferai jamais le saut. Je ne ferai jamais le saut de dire, « Ah, tu vois-tu, dans le fond, on va tous à la même place. On va tous connaître le même Dieu. » Non, ce que Paul me dit, c'est qu'ils se sont inventés des dieux. Ce n'est pas un message populaire à notre époque. Vous comprenez? Ce n'est pas un message populaire à notre époque. Mais je vous ferai remarquer que le passage à partir duquel je prêche ce matin a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et quand Paul en arrivait à Jésus-Christ, la majorité des oreilles se fermaient puis ça finissait là. Ce n'était pas un message populaire à l'époque non plus. Vous comprenez? Et donc, ce passage-là s'adresse à nos temps, à notre époque. Dieu a livré les hommes à leur sens réprouvé. Et donc, l'être humain va tout réinventer. Va réinventer l'amour, va réinventer la sexualité. Les rapports entre hommes-femmes, les rapports entre hommes-hommes, les rapports entre femmes et femmes. Et donc, on va voir toutes sortes de perversions sexuelles être là, que ce soit autant dans la pornographie que lorsqu'un homme va aimer un homme plutôt que d'aimer une femme. Puis, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que je ne peux pas comprendre ce qui se passe. L'apôtre Paul le comprend super bien. Il dit au verset 21, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand je jase avec quelqu'un qui va me dire, oui, mais tu ne comprends pas, c'est comme ça que je suis. Si tu savais à quel point je comprends que c'est comme ça que tu es, je le comprends tellement. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ, puis ma vieille nature, le vieil homme en moi, encore plein de fois, quelque chose à dire. Je comprends tellement que c'est comme ça que t'es. C'est ça que Paul me dit ici. C'est comme ça que t'es. Et tu vas avoir besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour sortir de là. Les amis, je sais que c'est un message qui est lourd. Mais si on doit apporter la lumière de l'Évangile, il faut qu'on soit absolument lucide. Et trop souvent, comme chrétiens, notre attitude, notre comportement, c'est simplement d'avoir de l'air surpris. D'avoir de l'air surpris d'où s'en va notre société, d'où s'en vont les gens, où s'en vont les valeurs. Wake up! Il n'y a pas de surprise! Ça a été écrit il y a 2000 ans. Il n'y en a aucune surprise. C'est une suite logique. Comprenez-vous? 1 + 1, ça fait 2. Mais ajoutez encore, on va continuer dans ce sens-là. Il n'y en a pas de surprise pour les chrétiens. Il n'y a pas de place non plus pour le cynisme. Il n'y a pas de place non plus pour le mépris. Il n'y a pas de place non plus pour l'indifférence. Au contraire, Paul est en train de nous dire, comprenez chrétiens, parce que Paul a écrit ça à des chrétiens. Aux chrétiens de Rome, puis il est en train de leur dire, comprenez votre société, comprenez d'où vous venez. Est-ce que ça fait naître en moi lorsque j'ai les yeux grands ouverts et que je comprends bien mon époque, je comprends bien ce que je lis dans les médias, je comprends bien ce qui se passe dans le cœur des gens autour de moi. C'est de la compassion, c'est de la lucidité, c'est une clairvoyance qui me permet de dire, je comprends tellement où est-ce que t'es. Je veux faire un bout de chemin avec toi et aller te rejoindre là. Mais tu sais quoi? Cette soif-là, ce vide-là qu'il y a en toi, ça s'arrête pas là, mon ami. Il y a plein d'espoir encore. Il y a encore énormément d'espoir. Parce que ce livre-là, la lettre aux Romains, c'est l'histoire de la bonne nouvelle de Dieu. Et tout ce que Paul est en train de faire ici, il est en train de dire, si tu veux apporter le remède, il va falloir que tu sois lucide. Il va falloir que tu arrêtes de pleurer en disant, mais, tout est en train de tomber en ruine. Come on, lis la Bible, man! C'est déjà tout clair, ça! Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une bonne nouvelle, il y a plein d'espoir! Et chacun d'entre nous, lorsqu'on reçoit l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu dans nos cœurs, on est la preuve vivante qu'on peut sortir de cette confusion profonde-là, retrouver un point de repère sur notre existence et commencer à construire une vie nouvelle remplie de sens en Jésus-Christ. Amen. On va aller ensemble dans la louange. On va aller ensemble dans la louange et que Dieu vienne remplir nos cœurs. Remplir nos cœurs de lucidité, de compassion et d'espoir. Parce qu'on a une bonne nouvelle à apporter dans ce monde qui s'étourdit avec toutes sortes de choses et qui a une quête de sens énorme. On va prier ensemble. Éternel mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui m'aide à comprendre qui je suis, d'où je viens, pourquoi j'existe, Seigneur. Toi, le Créateur, tu as fait des êtres absolument magnifiques que sont les êtres humains. Tes ouvrages sont glorieux, Seigneur, lorsque je considère le ciel, l'univers, la terre où nous vivons, les animaux, ta création dans toute son expression, Seigneur. Lorsque je considère la beauté des choses, Seigneur, lorsque je considère le potentiel de l'homme, Seigneur, lorsque je considère la compassion, l'amour, la charité, la créativité des êtres humains, Seigneur. Wow! C'est tellement beau ce que tu as fait. Et dans ta grâce, Seigneur Jésus, tu es venu vers nous. Tu es venu vers nous pour nous apporter la lumière de l'Évangile, pour nous faire sortir de ce déraisonnement profond et nous conduire dans la raison. Nous ramener à la raison, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, d'aimer les hommes comme tu le fais. Merci de nous avoir aimés jusqu'à la croix, Seigneur, afin de rendre possible une vie nouvelle qui commence en toi, Seigneur. Fondée sur toi, remplie d'espoir. Fais-nous grandir comme Église, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous voyons clairement et que nous voyons avec foi, Seigneur. Garde-nous du cynisme, du découragement, de l'apathie, Seigneur. Et remplis nos cœurs d'amour, de courage, de foi, de force pour apporter cet espoir de l'Évangile aujourd'hui. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.